la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
La poussière des météores. The sky is on fire. Perpoalk.
C'est une exposition qui s'intitule La poussière des météores. C'est un titre que j'ai emprunté à Alain Bachung sur l'album L'imprudence.
La poussière des météores. Papier magistrat de luxe, un blue back, 120 grammes. Édition non limitée.
Ces quelques mots donnaient vraiment une idée atmosphérique de ce que c'est que l'impermanence et la relation à l'immensité, notre position par rapport à cette immensité.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique me tento me tento stélé.
Le monde invisible.
La poussière des météores. The sky is on fire. Perpoalk. À Bruxelles, à la Vallée, jusqu'au 22 septembre, Stéphane Balleux, La poussière des météores.
La première pièce de l'exposition, j'ai créé une affiche de l'exposition, mais ce qui est amusant dans le jeu de la mettre à l'intérieur de l'exposition, c'est qu'en fait, c'est en principe une affiche est faite pour faire la publicité d'une exposition à l'extérieur de l'exposition, et là, elle n'existe pas à l'extérieur, elle est présentée dans une exposition qu'on visite déjà, donc c'est un peu incongru.
La poussière des météores, The Sky is on Fire, Perpoalk. Partirai je Nico.
Et de plus, j'ai fait une affiche qui ressemble plus à une affiche de film de cinéma, où toutes les personnes que j'ai représentées, parce que j'ai invoqué énormément de personnes dans cette exposition, tous leurs noms sont dans les crédits. La deuxième pièce que l'on voit, c'est un autoportrait. C'est un autoportrait un peu en militaire, en attente, avec une expression que j'ai essayé la plus neutre possible, un peu sèche. Le traitement est assez réaliste. Portrait à sa petite sœur de l'autre côté du mur. Donc je suis portraituré de dos de l'autre côté, mais dans chaque autoportrait, il se cache un problème. La solution se trouve dans le titre. C'est un autoportrait aux deux yeux droits. Je ne me suis pas avec deux yeux droits, avec l'anatomie légèrement déplacée. En fait, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas à le voir à cause aussi du traitement qui est assez classique, qui est très réaliste. Il est en noir et blanc aussi, comme un peu comme une photo.
Autoportrait des deux yeux droits. Autoportrait de dos avec 11 doigts. 2019. Aquarelle sur carton de conservation.
De face, j'ai deux yeux droits. De dos, j'ai un doigt de trop.
Fantasma, 2017. Écran cathodique Hitachi.
J'essaie en fait que toute cette exposition soit une relation entre les pièces. Il y a comme d'habitude beaucoup de peinture, mais il y a aussi des objets trouvés, des images trouvées, des images légèrement retravaillées. Un des objets trouvés les plus étonnants, car en fait vous voyez un téléviseur qui est éteint, et pourtant il existe quand même une image. Un téléviseur de surveillance qui a pointé sa caméra pendant, à mon avis, des années sur le même objet. Là, c'est l'entrée du Bricot de Saint-Gilles. À force d'avoir montré cette image, elle s'est imprimée par l'intérieur sur l'écran. De ce que je connais, c'est le plus long temps de pause de l'histoire de la photographie. C'est un fantôme, ça s'appelle Fantasma. Fantasma, en grec, ça veut dire fantôme, ça veut aussi dire apparence, ça veut aussi dire image. C'est une image qui apparaît ou qui disparaît de un peu mes obsessions actuelles, si pas générales.
Cover 2019, couverture de peintre chassé.
Un tableau placé assez haut avec un tissu un peu étonnant. En fait, c'est une couverture de peintre. Quand je cherchais de quoi protéger le lieu ici à la vallée, je cherchais quelque chose d'un peu moins plastique. J'ai des petites préoccupations écolo, vu que j'écoute beaucoup les médias. Et donc j'ai trouvé des couvertures de peintre. D'abord, ça m'avait touché qu'il y avait des couvertures rien que pour moi, un peintre. Je pouvais me protéger avec celle-là. Mais surtout, la texture est très très belle. Elle fait vraiment référence à soit un ciel étoilé, un petit morceau de tissu assemblé, gris. Et ça fait aussi très bruit de télévision.
À Bruxelles, à la Vallée, jusqu'au 22 septembre, Stéphane Balleux, La poussière des météores. Figure, 2018, image trouvée.
À côté de cette pièce et au fond de la pièce, on voit une image qui de loin ressemble à une figure, une tête, un portrait. Elle est volontairement placée très très loin pour qu'on ait vraiment cette idée-là. Mais quand on s'approche, il y a une autre image qui apparaît. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est une image trouvée. Donc je l'ai pas repeinte, je l'ai juste fait encadrer. C'est une image d'un paysage qui a été retourné. Un des châteaux de Belgique devient une petite miniature d'un portrait.
La cascade d'Héraclite, Waterfall, 2019, Windsor-Troyes.
Ensuite, on rentre dans la grande salle dite des coursives. Et là, on voit un tableau de 6,20 m de haut, peint à l'huile, qui représente une cascade. Je l'ai intitulé la cascade d'Héraclite. Et j'ai portraituré en fait toute une série de philosophes ou sociologues ou artistes ou écrivains. Ils sont pour moi des sortes de monuments, des questions sociétales qui, moi, m'intéressent. Sociétales et sur la condition humaine. Il y a Nietzsche, il y a Chomsky, il y a Stiegler, Samuel Beckett, John Berger, Gilles Deleuze, Suzanne Sontag, Clément Rosset, Sonny Labutansi, Wittgenstein, il y a Virginia Woolf, Hervé Guibert, Rebecca Solnit et Rainer Maria Rilke. Leur visage bute sur l'eau, qui dégouline aussi ensuite sur d'autres têtes. Donc il y a aussi quelque chose d'un peu absurde, même d'amusant, alors que leurs écrits ne le sont pas du tout. Ils sont vraiment pour moi des monuments à lire, à s'imprégner, et qui sont pour moi des boussoles, ou ont été pour moi des boussoles dans mon existence.
Topetum Lucidum, 2019, 25 dessins à l'aquarelle sur papier, acier aimant.
Il y a énormément de gens, il y a Jean Genet, il y a Peter Sloterdijk, il y a P.G. Harvey, il y a Virginie Despentes, Harold Pinter, Barbara Hannigan, Marguerite Duras, Tarkovsky, Rebecca Solnit, Abby Warburg, Schopenhauer. C'est tous des gens aussi avec qui j'ai vraiment un contact. J'aurais pu faire une sorte d'encyclopédie des grands hommes et des choses comme ça, mais là, je pourrais vous pointer chez chaque personne pourquoi ils sont là, ce que j'ai lu d'eux, ou le moment où je l'ai lu, ce que ça a amené. Donc il y a vraiment l'idée d'un panthéon personnel que j'expose au grand jour. Il y a même une liste de tous les noms pour inviter les gens à prendre cette liste, aller voir qui ils sont sur Wikipédia, aller prendre un livre, se repaître de ceux qui nous ont offert. On rentre dans une pièce extrêmement sombre. Le regard doit s'habituer. Il y a une lumière, la lumière de la peinture qui commence à apparaître. Et ça crée aussi une sorte de mystère, une sorte d'impression de sérénité, même de mysticisme. Et au bout de cette pièce, il y a une fresque peinte à l'acrylique, à même le mur, de 4 mètres sur 12, qui représente en fait des braises. Ce sont des braises, mais j'ai fait tout un travail de couleurs, j'ai changé les couleurs, et les couleurs sont beaucoup plus froides. Ce qui devrait être rouge et jaune devient bleu. Donc on a totalement une autre forme de perception. Ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'on perd la perception de la peinture et on pourrait croire que c'est une projection. Il y a des gens qui ont été au vernissage, vraiment essayé de toucher pour voir si c'était un écran en fait. Si j'ai peint des braises, en fait, ce que la plupart des gens voient, et d'ailleurs on appelle l'installation la grotte, on voit l'intérieur d'une grotte. Elle est bleue, rose et mauve, elle est extrêmement organique. Les formes qui sont peintes appellent à l'imagination. On a l'impression d'y voir des choses, comme quand on regarde des nuages ou de la roche.
La poussière des météores, 2019, peinture murale et à l'acrylique.
La matérialité de la peinture est complètement éteinte par la perception. Il faut vraiment arriver à 30 cm du mur pour voir qu'en fait c'est un mur quasiment lépreux, avec une matière pas possible. Mais d'ici, on a l'impression que tout est brumeux. Et en fait, même à 1 mètre, ça reste encore très mystérieux. Mais cette pièce-là, je l'ai intitulée « La poussière de météore ». Au début, je croyais que ça allait être vraiment une sorte d'image de météorite, ouais, lunaire, quelque chose de cet ordre-là. On se rapproche. Ce qui est beau quand on descend la lumière pour voir une image ou une peinture. Avec les peintures, ça marche très bien, c'est que ça vibre. Ça vibre très très fort et on a l'impression que ce qu'on voit bouge. Alors qu'il n'y a rien de plus immobile que la peinture. Et de nouveau, avec cette idée d'utiliser la peinture mais de changer son statut, là il devient aussi une sorte de spectacle, une sorte de réceptacle, d'imagination. C'est à peu près des tailles d'opéra.
Janus, 2019, peinture murale à la gouache.
Donc ici nous sommes devant une peinture murale qui est peinte sur 17 mètres de long, dans un hall assez étroit d'une trentaine de mètres. Ça a été conçu selon le principe de l'anamorphose. Donc c'est un jeu esthétique et optique qui déforme une image pour qu'à un certain point, on puisse le reconstruire. Il y a une déformation qui se reconstruit par le regard. Et là, en fait, ça s'appelle Janus. Donc c'est le dieu des à deux têtes, le dieu des portes et des décisions. Et donc, en fait, il y a deux points de vue. Donc, si on va à gauche ou à droite de cette longue fresque, on peut voir deux personnages. J'ai mis des personnages antinomiques, et pourtant, ils ont un point commun, ils sont tous les deux britanniques. Et donc, il y a quelqu'un qui est du côté du politique, c'est Theresa May, et il y a quelqu'un du côté de la fiction et de l'onirique, et c'est Tilda Swinton. La réunion des opposés est un peu est une technique ou un système que j'utilise beaucoup dans mes travaux. En fait, même dans n'importe quoi, il y a toujours quelque chose et son contraire mis ensemble. Ça produit en fait un jeu, selon moi, dans le cerveau qui crée une sorte de malaise ou une perception différente. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça à tous les coups.
Saint Belgium's, 2019. Intervention sur document.
Et donc maintenant, nous sommes en face d'une installation qui s'appelle Celeb Belgians. Donc c'est un mot valise avec Celeb et puis Belgians. J'ai trouvé des portraits de personnalités célèbres de la fin du 19e siècle. Des personnalités qui ont fait la Belgique coloniale et industrielle, en fait. Ils ont vraiment l'air très, très, très contents d'eux. Il y a des places à leur nom, il y a des rues à leur nom en Belgique. Quand on lit un peu soit les médias, soit tous les livres pour décoloniser nos pensées, l'anthropocène, tout ça. Et donc j'ai collé des yeux, vous savez, ces petits yeux en plastique sur leur visage, et ça leur donne une mine beaucoup plus absurde et grotesque.
Je suis allé, Grégory Thirion, à la Vallée voir une exposition
de Stéphane Balleux, oui, que j'ai vu également. Donc Stéphane Balleux, c'est un artiste que je connais très bien. J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec lui dans les années précédentes. Je présenterai Stéphane Balleux en duo en mai 2020 avec Cédric Dambrun. Ils sont même en train de théoriser leur exposition qui traitera du son et de la peinture, puisque Cédric est compositeur sonore, de musique électronique principalement. Et donc ils parleront de l'immatérialité du son et l'immatérialité de la peinture de Stéphane Balleux, qui a maintenant actuellement développé une nouvelle technique où il ne touche plus sa toile, il travaille à l'aérographe, notamment à la projection de peinture. Voilà, donc il y a une certaine immatérialité, on ne voit plus le geste du peintre, du pinceau. Ils sont en train de créer justement une exposition autour de ce sujet.
The Film, 2019, Triptyque, Witcher Twan, dispositif de monstration en acier.
Donc ici on est à la fin de l'exposition, et la première chose qu'on voit, c'est le dos d'une peinture monumentale en trois parties, un triptyque. En fait, on est quand même invité à la contourner. On est dans un bâtiment avec des verrières, et on se retrouve devant un personnage en pied dans un champ labouré, et il y a une frise de gazon, un énorme panorama de nuages dans le fond, et on voit un homme qui se désagrège, qui en fait perd à partir du haut tous ses attributs. En fait, il y a d'abord le premier vêtement, le deuxième, le troisième, on arrive à la peau disparaît, et on voit les os, ensuite les viscères, ensuite ses parties génitales qui sont elles-mêmes découpées, et au fur et à mesure il disparaît jusqu'à ce que les pieds ne sont pas représentés. Donc pour moi, c'était une représentation imagée de l'impermanence. J'ai longtemps travaillé sur l'idée de fantôme comme sujet de peinture. Il y a quelque chose dans le fantôme et la peinture qui est en relation. Il y a pas mal d'artistes qui ont travaillé là-dessus. Mais je m'étais dit, tiens, si je faisais réellement un fantôme, quelqu'un qui disparaît, mais d'une autre manière que dans les films. Et donc j'avais cette idée qu'on pouvait perdre toute son anatomie quelque part, jusqu'au pied. Ça, c'était l'idée de base. Ensuite, elle s'est construite avec l'idée de, justement, si on représente un personnage qui se désagrège, c'est que ça parle quand même de notre vie sur Terre, sur l'impermanence de la vie. Il y avait un côté un peu peinture morale du 15e siècle, une sorte de proverbe. C'est peint d'une manière assez littérale. Je la compare à une peinture un peu de propagande russe, avec une sorte de héros au milieu et un beau paysage, mais là c'est inéluctable, nous allons vers l'entropie la plus définitive. Comme un grand panorama d'un paysage très ouvert. Du côté gauche, c'est plus joyeux, puis on arrive à quelque chose de plus tempétueux. Et bon, ça aussi, c'est emprunté au triptyque du 15e, où à gauche, je crois, il y a le paradis, l'enfer à droite. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai mis dans ce tableau. C'est aussi un spectacle, parce que le tableau, à l'espace où on se trouve, par exemple, à 3 mètres de là, il flotte. Il flotte dans l'espace. Mais il n'y a pas de filin, il n'est pas du tout accroché au plafond, il y a toute une structure derrière qui le maintient en lévitation. Et donc, il y a quelque chose comme si on était en fait la personne aussi qui est représentée, qui est aussi clairement en lévitation. Je m'intéresse beaucoup pour cette exposition à des mises en situation de peinture ou d'image où le statut de la peinture est un peu décalé. C'est toujours de la peinture, c'est toujours peint à la main, sans assistant, tout ça. Enfin, il y a un peu le côté performatif de la peinture qui a toujours été présent chez moi. C'est un grand tableau, hein, c'est 8 mètres sur 3. Et voilà, il s'impose, mais il flotte. Comme les nuages. Et aussi la personne qui est représentée, dont je ne dirai pas le nom, est quelqu'un médiatiquement très présent sur les réseaux sociaux, dans les médias belges. En fait, toute l'exposition est aussi une forme de perméabilité par rapport aux médias et à ce qui nous arrive. Personnellement, depuis les attentats de Bruxelles, j'étais beaucoup plus connecté aux médias. Voilà, il y a une sorte de perméabilité de ces images-là, leur présence, un peu fantomatique aussi. J'ai voulu travailler aussi avec des images plus contemporaines pour qu'on puisse dialoguer plus sur ce qui se passe dans l'image, que ce n'est pas qu'une question d'onirisme, des questions de peinture. Voilà, c'est aussi des questions qu'on peut ramener dans le réel actuel.
La poussière des météores. The sky is on fire. Per Poalk. À Bruxelles, à la vallée, jusqu'au 22 septembre. Stéphane Balleux, La poussière des météores. À Bruxelles, au Botanique, jusqu'au 3 novembre, Emmanuel van der Hoora, The Sky is on Fire, et jusqu'au 13 octobre, Léa Belousovitch, Per Poalk.
Trois écrans LED monumentaux de 4 mètres sur 2,50 mètres chacun, qui forment en fait les trois morceaux d'une image unique, qui est en fait un parcours immersif dans une représentation virtuelle d'une rue de Miami. Cette rue, en fait, est complètement fictive. Elle est constituée de fractions qui ont été prélevés dans la ville par une déambulation que j'ai fait dans le cours d'une dizaine de jours, du matin au soir, à chercher, on va dire, des textures, des poubelles, des surfaces, des voitures, l'intérieur de magasins. Là, on voit un 7-Eleven, qui est un objet extrêmement familier, symptomatique de la culture américaine et de daily life et de daily routine aux États-Unis. Donc finalement, c'est un versant qui est moins spectaculaire que ce qu'on pourrait imaginer de l'atmosphère d'une ville qui évoque autant de fantasmes que Miami. Une sorte de soliloque nocturne dans une ville digitalisée, mais qui serait, on va dire, par le fait même qu'elle est digitalisée, marquée par l'altérité et aurait une valeur de ruine, en fait. Donc ça explore les questions de la valeur de ruine de notre monde digitalisé.
Avec à la vallée, Stéphane Balleux.
Oui, je considère Emmanuel van der Rohe comme un des plus grands artistes contemporains actuels en Belgique.
L'artiste participe-t-il de la tradition romantique de ces artistes qui mettent en scène des ruines ?
On peut parler de romantisme dans sa vidéo, ici, dans ses précédents travaux, pas vraiment, mais ici vraiment, oui, déjà visuellement. C'est tout un paysage reconstruit, onirique, qui montre aussi un paysage qui peut être un paysage post-apocalyptique finalement. Mais voilà, par le traitement de ces images, la recomposition, puisque le film est totalement composé d'objets tridimensionnels, tel un peintre, finalement il recompose tout un paysage. Et donc oui, finalement il peut montrer le malheur par le beau, la catastrophe par le beau. Il y a une certaine attirance, une certaine esthétique dans ce film. L'on peut qualifier de romantisme totalement, on peut le lier au romantisme allemand où justement on a cet homme qui est face à la nature, imposante, incontrôlable finalement.
Et quand vous dites ruine, vous pensez à un genre artistique ?
Je pense que de toute façon, le romantisme a toujours été fasciné par les ruines, donc il reste une valeur romantique dans le travail, sans doute, même si c'est voilà, des technologies extrêmement sophistiquées, pour un résultat qui, finalement, où la technologie s'évanouit un peu devant ces espèces d'images pures. Donc oui.
Adresse des questions de société et qui le fait de manière assez magistrale.
On peut revisiter là le thème de la ruine romantique, mais à l'échelle de, voilà, d'une société digitalisée, et donc d'une masse immense et incommensurable de fractions, de fragments d'existence, de textures, et qui tout d'un coup viendraient se mettre ensemble et nous présenter voilà, une nouvelle forme de sorte d'eschatologie digitale, qui a l'air là d'être perdue dans une sorte de noir en dehors du temps, et qui est peut-être la question, voilà, qui pointe à la question de qu'est-ce qui restera dans un lointain futur de toutes ces images. Elles seront peut-être les derniers vestiges archéologiques de notre civilisation, et peut-être que ces boîtes noires et ces masses de données incommensurables seront, on va dire, les catacombes de notre temps, en fait.
D'une exposition au Frénois, et depuis on n'arrête pas de discuter d'art. On a même fait un peu de musique ensemble, et donc je me réjouis de voir sa nouvelle pièce, sa création au Botanique.
Au Botanique, Grégory Thirion, Emmanuel Valdehora, Léa Belousovic. Grégory Thirion, quand Emmanuel van der Rohe évoque l'eschatologie, vous entendez quoi ?
La peur de la catastrophe du monde, en fait. Cette peur que l'on ressent tous de la mort, tout en ayant l'espoir qu'on est immortel, évidemment. Ça, c'est, l'esprit humain est très bien fait, sinon on deviendrait tous fous, je pense. Mais voilà, c'est vraiment parler de ça, de la position de l'homme face à la catastrophe imminente, face à un possible déluge qui engloutirait le monde entier. Quand on écoute le monologue de Chaz, qui est dans la vidéo de Sky is on Fire, Chaz l'exprime très bien. Donc c'est vraiment un quidam qui a posté une vidéo sur Internet que Emmanuel a retrouvée sur un réseau social qui s'appelle Periscope, principalement utilisé aux États-Unis.
La poussière du météore, The Sky is on Fire. Bon,
j'ai souvent travaillé sur l'après-catastrophe et la manière dont finalement il y a une sorte de chorégraphie après-désastre qui en général relève toujours d'une même exercice. Et c'est malheureusement très réel et on le voit avec les pharmons aux États-Unis où c'est presque trop à l'aise, tout le monde sait déjà exactement quel genre d'image il faut utiliser, il faut offrir ses thought and prayer. Finalement, rien ne se passe. Quoi. Il y a une sorte de... Donc, ce rapport à la performance, est-ce qui m'a dirigé vers le...
Quelle image il faut offrir ?
Non, c'est-à-dire que quand il y a des tragédies et que ces tragédies deviennent médiatisées, on peut voir une sorte de qualité performative de la tragédie, en fait, à travers la manière dont les images sont utilisées, les mots qui sont employés, la durée que ça a, etc. Et progressivement, les shooters eux-mêmes ou les tueurs eux-mêmes entrent dans ce jeu de performance, deviennent eux-mêmes quelque part acteurs, avec des statements, etc. Il y a toute une espèce de marche. Donc je réfléchissais là-dessus. Le school shooting de Parkland est arrivé début 2018, qui m'a beaucoup troublé. J'ai commencé 10 jours après ce shooting à observer une app de médias sociaux instantanés, donc qui est une sorte d'utopie dans laquelle il y a une carte mondiale, et on peut regarder tout ce que les gens postent, et au bout de quelques jours, ces posts disparaissent.
Donc,
elle s'appelle Periscope. Donc ça commence avec une carte, en fait. C'est assez fascinant. On peut zoomer dans le monde, commencer à regarder ce qui se passait autour de Miami dans l'après-catastrophe, en imaginant finalement qu'un essai documentaire était possible pour voir et observer finalement la propagation de cet événement dans le temps. Et j'ai fait ça pendant 1 an et 4 mois.
Ce personnage, dans son monologue, exprime ça et nous confronte un peu tous face à notre peur de la mort, en disant voilà que l'on est égoïste, que l'on préférerait que le monde s'écroule après nous. On sait qu'il va durer des milliers d'années, mais ça, on ne peut pas le supporter, que le monde continuera sans nous. Et justement, il met ça en relation avec la culture actuelle de l'image que l'on a, qui sera un énorme héritage dans le futur, et on parle vraiment d'archéologie du futur en présentant le film d'Emmanuel. Ce film a été vraiment construit comme si des archéologues du futur retrouvaient une banque d'images incroyables et décident de reconstituer le monde tel qu'il était avant sa destruction, finalement.
Des personnages se sont imposés là-dedans, notamment un personnage qui s'appelle Chaz, qui est un noir américain assez perdu, et donc qui... insomniaque, se promenait dans la nuit et parlait avec des gens, ou même avec personne, on va dire, et c'était assez perturbant, mais il avait une intensité, une honnêteté qui m'a assez touché. Et donc finalement, il fait le lien entre ces deux films, parce que le film chez Harlan commence avec lui, qui fait un monologue dans lequel il adresse la question des shootings et son ressentiment, le fait qu'il ne faut pas s'inquiéter de lui parce qu'il n'est pas un shooter, etc. Et plus tard, il avait fait un parcours dans la ville. Tout pendant ce temps-là, il parlait.
Il a une démarche conceptuelle, oui, tout à fait, par justement sa manière de détourner les choses et de ne pas montrer des choses de manière évidente, finalement. Il va beaucoup plus loin que ce que l'on voit. On peut vraiment creuser dans son travail et y découvrir différentes thématiques, différents sujets sur lesquels creuser. Donc c'est assez multiple, le travail qu'il nous offre. Donc oui, il est évidemment conceptuel par ce côté-là, justement.
La vidéo se construit autour de cette promenade nocturne, en fait, et de ce monologue intérieur. Et cette technologie, elle épouse très fortement l'idée qui est en fait une sorte de spiritualité, comme s'il y avait même à un moment donné « Technology, it hasn't sunk in yet », we are in the digital age and it's all saved. Donc il fait une sorte de parallèle entre voilà, la réalité qui est sauvée parce que quelque part il reste son corollaire digitalisé. Sauf que dans cette technologie, des objets tout à fait, on va dire, normaux, communs, se mettent à avoir cette inquiétante étrangeté à cause de leur digitalisation, parce qu'en fait ce ne sont jamais que des images qui ont été torsadées. Ils font irruption dans une dimension qui n'est pas celle des images, qui est la troisième dimension. Et on peut voir que voilà, ce sont comme des origamis.
On peut penser à d'autres installations, une que l'on a vue à Art Brussels plus récemment, qui sera présentée fin du mois au Wills, où là vraiment on se retrouve dans une salle avec des écrans totalement blancs.
Une exploration de la valeur de ruine de l'image à l'heure actuelle. Ces espaces qui sont crédibles sont en fait complètement fictionnels. Chaque élément a été capturé séparément, donc on peut voir que, par exemple, cet objet, le truc de téléphone, est en fait un objet autonome qui vient se déposer et produire un décor, puisque vous avez utilisé le terme. Cette rue n'existe pas, cette configuration n'existe pas, et chaque objet est la résultante d'une capture autonome.
Et c'est par la circulation des visiteurs que l'on commence à comprendre que l'image nous apparaît via un filtre qui est positionné dans l'espace, qui est de toute petite taille, format A4 par exemple, par rapport à un écran qui en fait 2 sur 3, et l'image ne nous apparaîtra que si l'on est face à ce filtre, justement.
Dans l'imagerie numérique, il y a un rapport à la fabrication ex nihilo, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu démiurgique, on peut fabriquer tout, donc tout est possible, des animaux impossibles, des lieux fantastiques. Ici, c'est l'inverse qui se passe, en fait, le film commence et est essentiellement construit par une prospection de terrain pendant 10 jours à Miami, où, dans une sorte de renversement, on va dire, d'un regard photographique, j'essaye d'explorer la ville, de récupérer des prélèvements de réel, mais avec cette apse, et donc tout d'un coup, cette poubelle devient symptomatique, cette voiture est particulièrement intéressante, cet arbre a une forme qui est intéressante. Et je sais, j'ai appris à savoir comment voilà, ce qui est possible et impossible avec cette apse, et à finalement essayer de chercher la limite de ça. Je sais que les choses à l'arrière fusionnent sur les voitures à l'avant, et qu'il y a des aberrations.
Tiens, vous parlez du Wills, et j'ai vu dans un mail récemment que l'artiste vient de recevoir un prix.
Il vient de recevoir un prix, ça a été annoncé il y a 2 jours, c'est le Goldwasser Prize.
C'est aussi quelque chose qui, il y a plusieurs années, m'intéressait, le fait que l'archéologie, maintenant, utilise systématiquement les scans 3D. Donc, je crois qu'on déterre quelque chose, on le met finalement en situation de destruction prochaine. Peut-être pas dans 100 ans, mais dans 1000 ans, un objet qu'on a déterré, il pouvait rester des milliers d'années, mais il est fragilisé, en fait. Et donc on détruit ce qu'on découvre. Et pour parer à ça, on scanne systématiquement et on produit finalement des banques de données d'artefacts numériques.
Qui est donc un prix d'une fondation privée en relation avec le Wills et qui propose une sélection d'artistes pour finalement désigner un lauréat dont la pièce est acquise par cette fondation. Et ensuite, la pièce est donnée au Musée Royal des Beaux-Arts et sera présentée au Musée Royal des Beaux-Arts d'ici quelques jours.
À Bruxelles, au Botanique, jusqu'au 3 novembre, Emmanuel van der Hoora, The Skies on Fire. Et jusqu'au 13 octobre, Léa Belousovic, Perpoil.
Un très beau prix. C'est une relation entre le Wills, le Musée des Beaux-Arts, Dirk Snowart, Michel Draguet et la fondation privée.
Donc Perpoil, c'est donc le terme duquel part le projet d'exposition. Donc le Perpoil, c'est en fait une expression, plutôt dans le langage courant anglais-américain, qui décrit l'acte de photographier le criminel, le condamné, à un moment, voilà, soit avant, soit juste après la condamnation.
Avec, au Botanique, Grégory Thirion, Emmanuel van der Hoora, Léa Belousovic.
Donc PERP, c'est l'abréviation de Perpetrator, et WALK, c'est la marche. Donc c'est voilà, l'action de faire défiler vraiment en public la personne, encadrée par en général une ou deux autres personnes qui orchestrent la marche. Tout ça dans le but de pouvoir être enregistré par les médias, donc vidéo et photo. Donc bon, il y a des cas évidemment plus ou moins médiatisés, il y a eu des cas où ça a dévié, parfois les personnes subissent cette espèce de tradition avant même d'être condamnées, donc en fait l'image arrive à un point où elle fausse quelque part le jugement aussi. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'anticipation comme ça de cet acte photographique qui accuse en fait, voilà, la seconde d'après mise sur les réseaux sociaux qui fait le tour du monde et dont l'opinion publique s'empare en fait, avant même la justice parfois. Donc voilà, ça c'est vraiment le point de départ, cette mise en scène photographique autour d'un personnage.
Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Alors Léa est plutôt connue comme dessinatrice, en tout cas elle s'est fait connaître avec toute une série de travaux de dessins, crayons de couleur sur feutre.
Vous avez étudié le dessin à la Cambre ?
Oui, tout à fait, pendant 5 ans dans l'atelier de Denis de Ruder. Ouais. Le dessin a toujours une part très importante dans ma pratique. Je dirais que je travaille le dessin aussi d'une manière avec des actes photographiques. Souvent, donc le recadrage, la sélection, l'impression. Dans mon travail de dessin, d'ailleurs, il y a tout ça aussi. Il y a cette action de sélectionner, de recadrer, qui sont pour moi des actes aussi photographiques. Mais le plaisir du dessin, c'est quelque chose évidemment d'incomparable, qui est dans la lenteur aussi. C'est ça qui m'intéresse de travailler le dessin, c'est qu'il y a un temps très différent par rapport à l'immédiateté de la photographie et il y a une contemplation comme ça dans la lenteur.
Ce sont des dessins, ce qu'ils font ?
Oui, ici, ce sont des dessins au crayon de couleur sur du feutre textile. Vous voyez ? Vous pouvez vous approcher, vous verrez qu'en fait le feutre est assez épais. C'est donc un textile non tissé, où les fibres sont pressées comme ça à l'extrême. Et le fait de dessiner au crayon de couleur est en fait très intéressant en termes de technique parce que ça vient décoller les fibres, ça les fait quelque part pelucher et ça les sort en volume. Le crayon qui est en fait un matériau très sec mais qui agresse en fait presque la fibre.
Elle est également photographe. Et ici, elle nous présente une vidéo, des dessins et des photographies qui sont imprimées sur velours, marbré, qui donnent à la photographie un côté très précieux, comme ça presque théâtral.
Belousovitch, russe.
Lino Poligato me disait qu'aujourd'hui, les artistes volontiers s'approprient des images des médias et les signent, les prennent pour eux. Vous êtes d'accord ?
J'estime que mon travail est plutôt de faire une réinterprétation, une réappropriation, et d'utiliser ça comme matière. Ça, je suis assez d'accord d'utiliser ça comme matière de travail, mais le but n'est pas d'aller vers la reproduction ou la simple réimpression d'une image ou quoi, parce que, je veux dire, cette photo existe déjà, à la limite, dans sa forme pour laquelle elle est faite. Donc le travail de plasticien est plus d'en chercher une forme et de l'utiliser comme matière. En tout cas, dans mes dessins, je considère l'image de laquelle je pars vraiment comme une base de travail, un outil de travail, en fait.
J'ai décidé de présenter Léa en même temps qu'Emmanuel parce que les deux artistes ont beaucoup de bases communes dans leur recherche. La façon d'appréhender l'image sur Internet, comment on l'utilise, pour faire passer quel message. On est vraiment là-dedans.
La circulation des images aujourd'hui, il y a quand même énormément aussi d'images amateurs. Qui par exemple ne sont pas protégés et qui font quand même office de preuve dans pas mal de domaines. Par exemple, j'avais fait une série avec des images d'amateurs qui photographiaient des violences policières. Bon, ça c'est des images par exemple qui ne peuvent exister que parce que l'amateur fait la démarche de photographier et ça pour moi c'est hyper intéressant, c'est une source de travail mondiale à tout moment et immédiate. Mais que j'utilise comme matière.
Comment redonner une certaine dignité aux victimes de catastrophes, qu'elles soient provoquées par la nature ou par l'homme ?
Je considère qu'il faut qu'il y ait quand même un geste, une intervention, que ce soit dans la forme, dans la retouche, dans le recadrage, dans la présentation, et que vraiment ça devienne alors une matière. Et c'est parfois difficile de faire le tri dans toutes les images qui existent. C'est vrai que Parfois, on ne sait même pas d'où vient l'image, quelle est sa source. Il y a aussi beaucoup d'images qui sont modifiées avant d'être publiées. Il y a des images dont les couleurs sont extrêmement retravaillées dans la presse. Entre le moment où l'événement se passe vraiment, la personne prend la photo, choisit, et qu'ensuite, par exemple, l'éditeur va choisir, tout ça va induire toute une série de choix qui dirigent quand même certaines opinions, forcément.
Léa, je la connais depuis maintenant 3-4 ans. J'ai déjà fait une exposition avec elle précédemment.
Pour une image qui existe, il y en a un millier d'autres qui n'existent pas, en fait, et qui auraient pu exister ou qui sont absentes. En tout cas.
Elle a également gagné quelques prix. Elle avait récemment eu le prix du Parlement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le prix de la Coq-Off à la Médiatine l'année dernière.
Par exemple, toute la pratique amateur, je disais, est assez importante là-dedans parce qu'elle vient jouer un rôle, elle vient contrebalancer peut-être ce qui est proposé dans les grands médias. Et quelque part, c'est tout aussi la réalité. Je trouve ça très intéressant. C'est vrai que bon, il y en a certaines, où par exemple celle-ci a quand même, avec ce orange très particulier de la combinaison, on sait quand même dans quel contexte on se situe, je pense. Il y a des arrière-plans, il y a quand même un visage en arrière-plan qui est coupé juste aux yeux. Tout ça donne des indications quand même d'un certain hors-champ, je pense qu'on saisit. Ou celle-ci, par exemple, est coupée volontairement au ras des menottes, en fait. Je pense que on peut comprendre, même si c'est invisible, qu'elle a les mains liées, parce que c'est vrai que ce geste-là n'est pas naturel du tout. Il est induit par une entrave. Mais après, bon, c'est particulièrement médiatisé aux États-Unis, surtout dans un environnement, par exemple, comme New York, où c'est très, très, très médiatisé. La sortie des tribunaux est très médiatisée. Mais c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres pays, hein, en France aussi, peut-être bon, un peu moins mis en avant, mais... En Afrique du Sud aussi, j'ai vu pas mal d'images qui viennent d'Afrique du Sud. Le fait d'arrêter en public est autorisé évidemment par la police, et le fait qu'eux-mêmes aussi parfois filment ou photographient leurs arrestations est aussi une pratique autorisée par la police. Parfois même, c'est eux-mêmes qui sont leurs propres spectateurs de leur propre action. Ça crée quelque chose de très... une espèce de mise en abyme. Mais après, c'est vrai que, bon, comme je disais tantôt, la démarche de montrer en public l'accusé ou le criminel, c'est quelque chose de très, très ancien dans l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose de, vraiment... Ça remonte même, on peut dire, on disait tout à l'heure, à l'histoire du Christ. Il y a quelque chose de présenté en public pour que l'opinion publique engendre cette honte.
Vous parlez de l'époque du Christ, on pense très vite au jeu des cirques et aux mises à mort par les bêtes, au cirque à Rome, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je n'avais pas...
Mais les crucifixions, c'était fait pour...
Pour un public, quoi. Ça, c'est sûr. Mais même, enfin, on disait aussi tantôt la Révolution française, enfin la guillotine et tout ça, c'est quelque chose de...
On payait très cher les places.
Pour voir, oui, pour assister. Ben, les pendaisons publiques aussi. Il y a encore beaucoup de pays où la peine de mort est appliquée, où ça se pratique en public. Ça fait partie du jugement, en fait. Mais là où intervient la photo et la vidéo, c'est que ça entraîne forcément des dérives, en fait. La preuve, c'est qu'il y a parfois des cas où la photographie accuse à l'avance. Parfois, la personne n'a même pas encore reçu son jugement. Mais le fait que sa photo fasse le tour du monde, en fait, l'opinion publique s'acharne et tout ça fausse le travail de la justice. Enfin, bon, la justice fait son travail, mais je veux dire, ça, peut-être ça influence certaines opinions, certains jugements. Parce que si, évidemment, une photo fait le tour du monde et tout le monde se jette, enfin, s'est jeté en pâture comme ça, forcément, ça a des conséquences, en fait, par l'existence de cette image.
Avec, à la vallée, Stéphane Balleu, au botanique, Grégory Thirion, Emmanuel Valdehora, Léa Belousovitch.
Une branche comme ça, peut-être d'une dérive de ce statut d'image, mais comme dans d'autres pièces que j'ai faites d'ailleurs, où je questionne comme ça des petites failles dans l'histoire de l'image et de notre rapport à elle.
La poussière des météores, The Skies on Fire, Perpoil, par Thierry Genico.
Disons qu'avec l'apparition de la photographie, de la vidéo, ça s'est complètement amplifié, quoi, et des réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose en fait qui est ancré dans quelque chose de très humain. Par exemple, dans la vidéo, il y a un plan qui date de quelque chose qui s'est passé très récemment avec les deux policiers à cheval qui transportent une personne en pleine rue. Je veux dire, ça, c'est des choses. Je sais même pas si c'était conscient ou inconscient, mais je veux dire, ça fait écho à des choses qui sont passées pendant l'esclavage. Enfin, on est en 2019. Enfin, c'est très très particulier, quoi. Et donc, quelle est la part de l'inconscient ou du conscient de produire ce type de scène? On sait très bien, même si on ne veut pas que ça soit photographié, par exemple dans les vidéos, il y a toujours un amateur, un témoin, il y a toujours quelqu'un derrière une voiture. C'est inévitable, en fait. Donc, on ne peut pas ne pas choisir de faire ces actions en pensant que ça ne va pas être vu, en fait, par le monde. Et ça, je trouve ça, en termes vraiment d'image et de nos relations à ce qu'on voit et comment on le voit, et je trouve ça, voilà, je trouve ça très intéressant.